La grande matinale.
Yves Ekwe Amaizo, est-ce vrai que certains dirigeants africains refusent encore de doter l'Union africaine de fonds propres afin d'améliorer la souveraineté de l'Union africaine sur ses décisions?
La réponse est oui. Vous avez dit certains, mais ils sont nombreux. Il est rare de ne pas entendre un Africain, et plus particulièrement ceux de la diaspora d'ailleurs, critiquer le fonctionnement de l'Union africaine, l'institution continentale. C'est depuis 1963 que l'intégration africaine est au programme. Ce ne sont pas les plans qui ont manqué. Plan d'action, l'acte final de Lagos en 1980, le traité d'Abuja en 1991 et entré en vigueur en 1994, la déclaration de Sirte en 1999, l'acte constitutif de l'Union africaine démarré à Lomé, adopté en 2001 à Lusaka et officialisé en 2002 à Durban. Des papiers, on en fait plein, des plans, on en fait plein en Afrique. Malgré tout ceci, les 8 régions africaines, il faut le savoir, plus connues sous le jargon de CER, Communauté économique régionale, avancent chacune à leur rythme, selon 6 étapes inscrites dans le traité d'Abuja. On ne va pas les rappeler là, mais bon, ce sont des étapes assez simples, hein, passer de telle communauté à une autre, de l'union douanière, etc. Alors, en faisant un petit calcul, l'intégration continentale n'est envisagée qu'entre 2028 et 2034. Sous le nom de communauté économique africaine. Je suis sûr que la plupart des Africains, ils ne sont même pas conscients que chaque fois qu'ils parlent d'intégration régionale ou intégration continentale, ils ne savent pas que les chefs d'État, eux, ont fixé à 2028 et jusqu'à 2024, s'ils tiennent parole. Encore faut-il parvenir à l'union douanière, qui était une des premières étapes. Et là, celle-ci, elle est fixée à 2017. Mais en 2012, la libre circulation des biens entre les pays n'est toujours pas évidente. La politique commerciale commune, par exemple, et la taxe extérieure commune devraient pouvoir être opérationnelles en fin 2012 pour les régions comme la SADC, SADC, l'Afrique centrale, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, la CDAO, la Communauté économique et développement des États de l'Afrique occidentale, Afrique de l'Ouest, la COMESA, Afrique australe et Est et Océan Indien, etc. Pourtant, la réalité n'est pas si évidente, parce que vous prenez la voiture, la route, les frontières, le douanier, lui, il n'a même pas lu les textes, il vous dit que vous payez, vous passez pas. Il ne faut pas oublier les sous-structures sous-régionales comme l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africain, ou la communauté africaine de l'Est, où ça se passe beaucoup mieux. Il faut féliciter la CDAO qui a compris que les avancements rapides sont liés à l'existence d'un budget propre. Une taxe automatique sur certains produits d'importation est versée directement à la CDAO, on fait oublier les retards, les reports et les autres inconvénients de ces institutions régionales. Pourtant, c'est justement cette taxe automatique sur certains que certains dirigeants africains refusent d'accorder à l'Union africaine. Il faut donc sanctionner les États qui adoptent le principe, mais refusent d'imposer et de transférer le budget prélevé à l'Union africaine.
Alors que faut-il à l'Afrique, Yves Ekwe Amaizo, pour avoir un effet de levier sur la croissance économique?
Ça c'est une thèse de doctorat. Ce n'est pas tout d'avoir des fonds propres. Il faut surtout trouver les moyens d'avoir un effet de levier sur la croissance économique positive annoncée du continent. Ce depuis près de 10 ans d'ailleurs. Je le rappelle, oui, l'Afrique soutient la croissance mondiale. Mais cette croissance ne pourra pas être soutenue si l'accent n'est pas mis sur les gains de productivité dans tous les secteurs. Pour être précis, on ne peut pas continuer à avoir la roue dans l'agriculture. Il va falloir passer, qu'on le veut ou non, à un peu de mécanisation et d'automatisation, voire de tracteur. Et sans compter les engrais, naturels si possible. Voici un exemple de gain de productivité, mais je peux rentrer dans les secteurs de Haïti, etc. Bon, les capacités productives, il faut transformer, notamment dans les mines, et introduire du contenu technologique. Et enfin, il faut de l'innovation quasiment dans tous les secteurs et cette innovation puisse passer au niveau opérationnel pour créer de l'emploi. Sans l'amélioration de la formation, de l'éducation ciblée, des gouvernances d'anticipation, parce qu'il faut anticiper le retour de la vérité des urnes, que tout le monde appelle la démocratie, mais c'est pas ça. On peut bien voter, mais si vous trafiquez les urnes, il n'y a rien qui se passe. Le retour de la vérité des urnes et une intégration accélérée, y compris au niveau de la convergence monétaire par exemple, qui pour le moment ne marche pas encore, il sera difficile pour l'Afrique de créer des pôles de compétitivité, des agglomérations de valeur ajoutée, des mises en commun des compétences, y compris avec celles de la diaspora. Tout cet ensemble transformera l'Afrique en un pôle de croissance dans les décennies à venir. Mais il faut faire très attention. A contrario, si la vieille politique de dépossession des richesses africaines se perpétue sous la forme, par exemple, d'une gestion patrimoniale et clanique à la tête de certains États. Si, par exemple, il s'agit d'une exploitation anarchique du sous-sol, du sol, de la mer et de l'air, y compris ceux qui acceptent d'acheter et ne le distribuent pas aux populations d'ailleurs, les déchets toxiques, y compris nucléaires, qu'on dépose en Afrique comme une poubelle, ou que cela se traduit aussi par un refus des dirigeants africains d'investir localement, ils n'investissent pas localement en Afrique, alors l'Afrique pourra se muer en des pôles d'extinction de la création de valeur ajoutée. Exactement le contraire du pôle de croissance. Donc, la fuite, actuellement très élevée, des capitaux, doublée d'une fuite des cerveaux, et un désintérêt de la diaspora, une partie en tout cas, du fait du manque de démocratie usurpée, et du manque de démocratie tout court, qui est devenue une démocratie usurpée, pourrait conduire à un dénuement, ici et là, sans précédent, pour être très clair, des grands espaces de pauvreté en Afrique. Cette marginalisation de la population va être ciblée. Autant certains parlent d'immigration ciblée, choisie, autant certains parlent de marginalisation ciblée et liée à la résultante des intérêts conjugués du marché et des politiques publiques. Tout ceci pourrait faire disparaître le retour progressif et constant de la confiance en Afrique. Et bien sûr, derrière cela, aux Africains. C'est pourtant ces deux alternatives qui s'offrent à cette Afrique plurielle et que pour le moment, personne ne veut choisir l'une ou l'autre alternative de manière claire. Puisqu'on sait que beaucoup de ces chefs d'État jonglent systématiquement en fonction des intérêts et bien sûr le rapport de force.
Merci Yves Kouya Maïso pour cette chronique afrocentrique. Vous pouvez la retrouver, la réécouter sur le site d'Africa numéro 1, www.africa1.com.